Le 24 septembre dernier, le CNRS décernait sa médaille d'or 2014 à l'informaticien Gérard Berry. C'est la deuxième fois seulement que ce prix scientifique est considéré comme le plus prestigieux dans notre pays, récompense cette discipline. Gérard Berry est pionnier dans un nombre considérable de domaines informatiques comme le lambda calcul, l'orchestration de services web ou la programmation des objets connectés. Et il est le découvreur du langage STRL, un langage de programmation adapté à l'informatique embarquée. Langage qui a très rapidement trouvé des applications dans l'industrie puisqu'il permet entre autres d'éviter les bugs. Gérard Berry, vous êtes cet après-midi l'invité de La Tête au Carré. Bonjour à vous.
Bonjour.
Informaticien, professeur au Collège de France. Vous êtes titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages. Vous êtes également chercheur à l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, mais également régent de déformatique au Collège de Pataphysique. Ça vous tient à cœur, on en parlera avec vous dans quelques instants. Et bien sûr, on va s'intéresser au langage informatique et puis à deux aspects peut-être de l'informatique, les bugs informatiques et puis les objets connectés. Les auditeurs peuvent nous rejoindre sur ces thèmes dès maintenant avec toutes les questions sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Et puis le quiz bien sûr de La Tête au Carré, ce sera dans la dernière partie de l'émission avec deux nouveaux candidats que nous accueillerons avec Florence Porcel.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, Philae s'est bien posé sur sa comète et vous, Sophie Bécherel, vous êtes bien posée à l'aéroport ce matin puisque vous arrivez de Darmstadt après votre journée folle hier.
De folie, mais ça voilà. Continue, vous avez vu ces rebondissements dans cette histoire spatiale.
Dans tous les sens du terme, évidemment. Quelle était l'ambiance pour vous qui étiez sur place? On se parlait hier en duplex de la Cité des Sciences, c'était extraordinaire déjà de le vivre comme
oui,
ça.
Oui, ben ça a été vraiment une journée de montagne russe avec des moments de forte tension, de grande impatience puisqu'il fallait 28 minutes pour avoir le résultat d'une action. Beaucoup d'impatience. Mais énormément de confiance parce que visiblement le programme se déroulait exactement comme on l'avait rentré dans le programmateur du petit robot.
Voilà, le petit robot Philae est donc bien arrivé à destination. On apprenait ce matin qu'il n'est pas du tout, par contre, on souhaitait le voir se poser.
Voilà. Alors il a déroulé son programme, mais vraiment de façon nickel, j'ai envie de dire. Il s'est posé d'ailleurs au centre de la cible qu'on lui avait assignée, sauf que voilà, tout de suite il a rebondi.
Voilà.
Et alors il a lévité quasiment 2 heures.
C'est ça, ça a été long le rebond.
Très très long. Vous savez que les 100 kilos de Philae sur la comète ne pèse plus qu'un gramme. Ouais. Donc, il ne peut pas s'accrocher. Et pourquoi il ne s'est pas accroché? Ses harpons, visiblement, ont mal
dysfonctionné.
Exactement. Ouais. Donc, premier rebond, il reste 2 heures et puis il se repose un peu plus loin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il rebondit à nouveau. Et le voilà à 1 kilomètre de sa cible, à un endroit totalement inconnu et effectivement pas tout à fait à l'horizontale.
C'est la photo qu'on a vue d'ailleurs ce matin.
Voilà, on a tout de suite vu
cette sorte de
falaise. Un bout de pied. On s'est dit, tiens, pourquoi il photographie son pied? Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure Marc Pircher, le directeur du Centre national d'études spatiale à Toulouse.
Le véhicule, il n'est pas du tout sur les 3 pieds. Et donc, on est de travers, on est penché. Les caméras qui voient le sol complètement, les caméras qui voient le ciel et les caméras qui voient des sites évidemment totalement différents. Donc, on n'est pas à plat. Et pour vous rappeler les images que l'on avait eues juste avant l'atterrissage, on était pile poil au bon endroit et dans une zone qui était relativement plane. Alors qu'on a été se retrouver au bout d'un kilomètre dans les zones de falaise.
Et on voit bien la falaise sur la photo d'ailleurs. Il est vraiment le nez au mur.
Oui, hein. Certains parlent d'une grotte. En tout cas, là, visiblement, il est coincé. C'est pour ça qu'il n'a pas continué à rebondir. Il est complètement coincé. Et voilà, il n'est pas droit. Mais enfin, ce qui est extraordinaire, il a de l'énergie. Les antennes sont dans la bonne direction, donc il nous parle. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui semblent sauvables, entre guillemets, d'autant que 8 des 10 instruments ont travaillé toute la nuit. Il a déroulé, comme il n'était pas en visibilité de Rosetta, de sa sonde, eh bien, tout le programme de travail qui lui avait été assigné a été fait. Et c'est d'ailleurs en analysant toutes les données que les scientifiques ont aujourd'hui pu reconstituer ce feuilleton extraordinaire.
Ouais, donc le travail n'est pas mis en péril, ça.
Non,
on en
sauf
est sûr.
Que dès ce matin, vous savez qu'il devait forer le noyau de la comète. Ça, évidemment, ça pose beaucoup de questions parce que si on pousse sur la comète, là, on le fait repartir. Donc ça a été arrêté à temps. Peut-être que ce forage n'aura jamais lieu et que voilà. Mais il reste encore une fois toute une autre série d'instruments qui déjà apparemment ont envoyé beaucoup, beaucoup de données. Rappelons quand même qu'à l'époque, Rosetta, il est parti avec 16 mégaoctets de mémoire. Ouais. Gérard Berry pourra vous
justement
dire à quel point c'est rien.
Bien sûr, Gérard Berry, évidemment, sans informatique, embarqué, il n'y a pas de mission Rosetta, il n'y a pas de Philae sur la comète.
Alors, il faut de l'informatique partout. Il en faut pour la conception de la mission,
pour le calcul de la trajectoire, parce que c'est pas tout près, c'est pas simple d'y aller. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle vraiment un objet connecté, donc un objet qui n'est pas du tout un téléphone, qui est une sonde spatiale extraordinaire et qui est plein d'informatique et d'informatique maligne. Et évidemment, dedans, faut pas qu'il y ait de bugs, sinon ça va mal se passer. Oui. C'est déjà extraordinaire d'arriver à faire tout ça, et c'est encore plus extraordinaire de finir par comprendre où il est et dans quel état.
C'est ça qui est incroyable.
Et quand on parle après d'analyser les données, ben c'est encore de l'informatique. Il y a énormément d'informatique dans le spatial.
Ouais. Donc ça fonctionne à 500 millions de kilomètres. Enfin, c'est absolument
inouï. Ça ne change pas grand-chose. Hein.
Pourquoi
La raison, une fois que c'est en l'air et que c'est de l'informatique qui est protégée des rayons cosmiques et des ordinateurs, qu'il soit à 500 millions de kilomètres ou pas, ça ne change rien du tout.
Sophie Béchal. Pour
ça change 28 minutes de temps de transmission.
Voilà, c'est ça quand même.
Oui, ça c'est assez flippant pour les gens qui envoient une correction et dont il faut qu'ils attendent vraiment très longtemps.
Et puis, dans un environnement extrêmement froid, il y a quand même de l'électronique qui a été conçue pour fonctionner dans des conditions très froides et d'autres pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de l'énergie à bord en ce moment de Philae sert à réchauffer, il y a des chaufferettes. Hein,
oui, pour c'est ce que vous expliquez hier matin dans le matinal.
Mais ça, c'est vrai pour tous les satellites.
Hein. Oui.
Voilà. Alors, il y a eu des précédents justement dans le domaine spatial tragiques en raison de bugs informatiques, hein, Gérard.
Oui, il y a eu pas mal de précédents parce que c'est difficile de faire l'informatique juste. Il est facile de faire l'informatique fausse, mais il y a eu un précédent célèbre qui était le premier lancement d'Ariane 5 qui a sauté à cause d'un bug absolument stupide et on en aurait lancé 100 et aurait sauté tout au même endroit.
Oui.
Bon, à l'époque, je dirais que le spatial faisait de l'informatique un peu comme Monsieur Jourdain. Ça a changé beaucoup après et c'est devenu tout à fait sérieux et à l'état de l'art.
Ouais. Sophie, c'est quoi le calendrier alors maintenant pour Philae? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures et puis dans les prochains mois,
alors,
jusqu'à ce que le soleil brûle
le
pauvre
souci,
robot
hein. Il est aussi là. C'est-à-dire que le site prévu pour lui était très ensoleillé. Il a des panneaux solaires tout autour de ses faces là. Mais alors là, apparemment, il n'y en a qu'une heure par jour. Donc ça va pas recharger rapidement. En tout cas, là, il avait au tout début 60 heures dans sa pile là, d'énergie, d'autonomie, on va dire. Donc là, chaque heure qui passe, il consomme.
Ouais.
Mais il va quand même y avoir du travail qui va être fait d'ici demain soir. Et puis alors après, le rechargement risque d'être beaucoup plus long que prévu et donc peut-être le programme réduit. Mais encore une fois, peut-être d'ailleurs qu'on aura les informations d'ici la fin de votre émission, puisqu'à Darmstadt, il y a à nouveau un point de presse des scientifiques.
Et il paraît qu'on nous réserve de belles annonces.
Visiblement, quand je vous disais qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils ont déjà analysé les données du cœur de la comète. Ils disent qu'elle est très poreuse, c'est un vrai gruyère de glace. Ils ont l'air complètement enthousiastes.
Ouais.
Ça signifie que Philae Rosetta, c'est vraiment une mission qui d'ores et déjà est un extraordinaire succès, d'un point de vue technologique et d'un point de vue scientifique.
Voilà, et que ça s'inscrit déjà dans l'histoire du spatial, tout ce qu'on a vécu ensemble hier, 12 novembre 2014. Évidemment, vous revenez, Sophie, la porte est grande ouverte pour vous dans la tête au carré. À chaque instant, si une information tombe au sujet de Philae, vous entrez dans le studio et vous emparez du micro. On en fera évidemment part aux auditeurs au fur et à mesure des minutes. Merci beaucoup Sophie Bécherel et puis Gérard Berry, on se retrouve dans un instant. Ah oui, on voulait juste vous faire écouter pour le plaisir la voix du directeur général de l'ESA, c'est Jean-Jacques Dordain, lors de la conférence de presse du mois d'août 2014. Voilà, c'était le point de ponctuation.
We are just providing data, the scientists will make the work and I am sure that the scientific data that we shall collect will give them for decades of work. So I wish bon courage to all the scientists which are today waiting for the data.
Voilà, c'est notre petit running gag à nous pour célébrer l'arrivée de Philae sur la comète.
Je t'ai dans les yeux au petit jour, je fais des tours et des aveux. Je t'ai en tête quand mes idées, souvent muettes, chantent l'été. Avec des battements de cils, je joue des tours à tes humeurs. Jusqu'à ce que tu perdes les fils, à en oublier le nom des fleurs. passant des pavés. Je raconte la lune, je te raconte la lune. Je m'étends sur la brume ou sur tes baisers. Mais moi je sais raconter tes baisers. Je décris des dizaines d'humeurs quotidiennes. Je te chante encore mes joies, mes peines. Je détaille toujours des histoires tout bas. Mais comme j'aime penser à toi, avec des battements de cils, je joue des tours.
Et c'est la voix de Camélia Jordana et Dans la peau sur France Inter.
Il arrive parfois que nous désespérons de l'état de ce monde. Ah, les savants.
La tête.
Que n'inventeront-ils encore
Carré.
Dans les temps à venir?
Le magazine scientifique de France Inter.
Ridicule tout ça.
Gérard Berry, vous êtes informaticien, vous êtes la nouvelle médaille d'or du CNRS. On vous avait déjà félicité hein, en septembre, on est très heureux de pouvoir vous retrouver. On avait pris rendez-vous pour passer vraiment une grosse demi-heure ensemble pour parler de langage informatique, de bugs informatiques, d'objets connectés. Et on attend bien sûr les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». C'est donc en décembre que vous allez recevoir cette médaille d'or du CNRS. C'est la deuxième fois seulement qu'un informaticien est récompensé. Alors c'est quand même assez paradoxal parce qu'on est immergé dans le monde informatique, on s'appuie vraiment sur l'informatique aujourd'hui, c'est comme ça quasiment que le monde avance et votre discipline semble assez méconnue du grand public. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
Alors ce paradoxe est dû au fait que l'informatique s'occupe d'informations et que traditionnellement les sciences en dehors des mathématiques s'occupent de matière et d'énergie. Et les sciences classiques n'ont pas vraiment admis tout de suite l'existence de l'informatique, surtout en France. Ça a été très long, ça se fait en ce moment un peu plus, parce que les gens comprennent le pouvoir extraordinaire de l'information. L'information, ça pèse pas, ça se traite beaucoup plus facilement que l'énergie ou la matière. Et il y a beaucoup de gens qui assimilaient informatique et ingénieur, ou informatique et celui qui sait faire marcher un PC, ce qui n'a rien à voir. C'est une science tout à fait spécifique, qui a ses façons de penser à elle, la façon de penser algorithmique, qui a ses langages, les langages de programmation qui sont inspirés du langage mathématique de façon certaine, mais qui sont quand même très différentes parce que les mathématiciens ne réalisent pas leurs programmes sur les ordinateurs en général. Certains, bien sûr, oui, ils font aussi de l'informatique.
Ouais, mais est-ce que ce n'est pas ce langage quand même assez compliqué à comprendre pour le profane qui crée aussi cette distance avec le public ?
Alors, le langage n'est pas forcément compliqué à comprendre. Par exemple, le Scratch, qu'on utilise beaucoup pour les enfants, qui permet de faire des petites scénettes, des petits contes, etc., est un langage qui n'est pas difficile à compliquer, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait d'ailleurs à STRL, parce que c'est un langage qui parle du temps, des actions et tout.
Oui.
Pas forcément. Bon, ce qui se passe, c'est que la question du langage est difficile, parce qu'on ne parle pas à des hommes, on parle à des ordinateurs qui sont intégralement stupides et totalement obéissants, ça je le dis tout le temps.
On alors a encore le pouvoir sur eux. Ouais.
Voilà, comment est-ce qu'on parle? Donc la distance maximale de nous. Nous, on est intelligents, mais pas très rigoureux. L'ordinateur est parfaitement stupide et très très rapide.
Ouais.
Il a une conscience professionnelle sans faille, mais aucune idée. Donc parler à cette bête-là, ce n'est pas du tout facile. Il faut des langages qui soient compréhensibles par les deux, c'est-à-dire qu'on peut les traduire dans les langages internes de l'ordinateur, qui eux sont tout à fait stupides. C'est prendre quelque chose et le mettre là, faire une addition, c'est tout. Hein. Mais il faut aussi que ça parle aux hommes. Les premiers langages informatiques des années 50 ne parlaient pas du tout aux hommes. Et maintenant, on arrive à avoir des langages langages qui sont compréhensibles à peu près des deux côtés. Mais ça reste difficile. Et surtout, le problème, c'est des bugs. Un humain, quand on lui explique quelque chose, il va évidemment interpréter ça à sa façon.
Oui.
Alors qu'un ordinateur, il va faire exactement ce qui est marqué, même s'il y a une micro-bêtise dedans. Et une micro-bêtise suffit à tout casser.
Comme par exemple provoquer l'accident de la fusée Ariane.
Oui, absolument, mais dans beaucoup d'autres endroits.
Oui. Alors aujourd'hui, évidemment, l'informatique, c'est absolument essentiel. Il faut l'enseigner aussi. C'est votre cheval de bataille actuellement?
Oui, en ce moment, on a un vrai problème avec l'enseignement de l'informatique. C'est un problème mondial, mais disons que le monde bouge très très vite. Et en France, ça reste bizarre. On a changé les mots, on parle de codage. Maintenant, on ne parle plus que de codage. C'est un mot qui vient
de
rentrer. Nous, on ne parlait pas de codage, nous.
Vous parliez de quoi, alors?
On programmait avec des langages de programmation. Codage, c'est un mot qui permet aussi, en changeant les mots, on a l'impression qu'on change de sujet, mais le sujet n'a pas changé. Et il y a aussi quelque chose de très négatif. Il y a beaucoup de gens qui professent que l'informatique, il n'y a pas besoin de comprendre ce que c'est. Il suffit de savoir s'en servir. Il n'y a pas besoin de savoir comment marche une télé, qui est un appareil totalement informatique, pour la regarder. C'est vrai.
Ouais.
Mais heureusement qu'on n'a pas dit ça sur le reste. Heureusement qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas besoin de savoir comment marche une lampe électrique. Il suffit de tourner le bouton. Parce que sinon, on n'aurait plus d'ingénieurs en France. C'est impossible que les élèves, ça ne va pas être des esclaves. Hein. Ils apprennent l'électricité à l'école. Et bien, l'informatique, c'est aussi important que l'électricité. Et il est invraisemblable qu'on continue à penser, que certains continuent à penser, qu'il n'y a pas besoin d'en comprendre les concepts. Alors, en Angleterre, par exemple, maintenant, l'informatique est officiellement une matière à part entière dans tout l'enseignement, au même titre que les autres matières scientifiques.
Enseigner à partir de quel âge?
Alors, enseigner à partir du primaire. On peut enseigner à partir du primaire les bons concepts. Et ce n'est pas la même chose que d'enseigner à se servir d'un ordinateur. Enseigner à se servir d'un ordinateur et enseigner à comprendre, c'est à peu près la même chose que savoir allumer une lumière ou bien comprendre ce que c'est que l'électricité et pourquoi la lumière s'allume.
Oui.
On explique ça aux enfants, on explique ça toujours aux enfants.
Et votre médaille d'or, elle va servir aussi peut-être à faire bouger un peu les lignes?
Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont faits par les chercheurs depuis longtemps. Ça a commencé dans les années 87. Il faut savoir que l'informatique a été enseignée, la programmation a été enseignée en France de 82 à 94, si je ne me trompe, et que ça a été supprimé. Personne ne sait exactement pourquoi. Et le problème maintenant, c'est... Bon, il y a beaucoup plus de gens qui sont convaincus qu'il faut faire quelque chose, mais comme on a laissé vieillir le problème extrêmement longtemps, il est maintenant difficile parce que les professeurs ne sont pas formés et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour former les professeurs. Donc, il y a un problème de poule et d'œuf. Mais un problème de poule et d'œuf, c'est pas en mettant la tête dans le sable qu'on le résout. La tête dans le sable, ça conduit les autruches à prendre des coups de pied aux fesses. Ça ne les conduit pas à améliorer leur situation.
Alors justement, il y a une photo très drôle qui circule aujourd'hui sur Internet au sujet des Australiens qui ont fait un beau cliché sur une plage de Sydney. Justement, la tête dans le sable. On voit 400 personnes, la tête dans le sable. C'est pour se moquer du Premier ministre qui ignore justement le changement climatique. Climato-sceptique notoire. Donc pour se moquer de lui, ils ont fait cette photo. Est-ce qu'il y a un lien précisément, Gérard Berry, entre le changement climatique et l'informatique? Est-ce qu'on pourrait...
L'informatique... émet pas mal d'énergie, ça c'est sûr, enfin consomme beaucoup d'énergie, c'est sûr, de plus en plus, mais il y a beaucoup de travail qui est fait pour diminuer l'énergie consommée, travail qui marche pas mal, mais c'est un sujet difficile. Mais surtout, l'informatique va être importante pour simuler le climat. Elle est importante pour simuler le climat.
Donc ça, c'est de la modélisation pure, alors?
C'est de la modélisation qui fait de la mathématique, physique, informatique. Elle finit en informatique. Aucun homme n'est capable de faire les calculs, bien entendu. Et donc, simuler le climat, il faut comprendre qu'on n'a pas deux expériences sur le climat. Les seules expériences qu'on peut faire, c'est sur ordinateur. Alors évidemment, ce ne sont que des simulations, mais les simulations aident à comprendre, à condition de ne pas les croire sur parole et à condition de les interroger, de s'interroger tout le temps. Mais ça progresse de façon continue.
Oui, donc il faut adapter, au fond, les calculs aussi aux changements d'environnement, de température. Il y a énormément de paramètres. C'est d'une complexité folle.
Il y a énormément de paramètres, mais disons, avant, les gens voyaient l'informatique comme une grande règle à calcul. Maintenant, de plus en plus, les scientifiques dans leur domaine voient l'informatique comme une façon de penser. Et par exemple, maintenant, les astronomes, les astrophysiciens conçoivent des expériences qui sont autant algorithmiques que physiques. Les instruments sont largement algorithmiques et l'algorithmique et la physique de l'instrument sont aussi importantes l'une que l'autre.
Mais justement, le calcul de la trajectoire de Rosetta, cette sonde dont on parle tellement là, en ce moment, ou de Philae d'ailleurs, son petit robot, c'est du calcul informatique, mathématique. mathématique pure.
Tout à fait, c'est du calcul mathématique implémenté en informatique. C'est des choses qu'on fait depuis très longtemps.
Ouais.
Voyager continue à faire des trajectoires invraisemblables. Donc ça, c'est de l'informatique qui est maîtrisée depuis... Et des mathématiques et de la physique qui sont maîtrisées depuis longtemps.
Ouais.
Les choses comme faire atterrir, comprendre, qu'on dit, quand on dit Philae a parlé à Rosetta, ben parler dans l'espace à cette distance-là avec extrêmement peu d'énergie, ça, c'est de l'informatique difficile. C'est l'électronique difficile parce que parler en bouffant la pile en 10 minutes, c'est pas dur. En mettant très peu d'énergie. Par exemple, la recherche française est très très forte là-dedans. Claude Berrou a inventé les turbocodes et la 4G, par exemple, ou ce genre de communication dans des canaux très bruités. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas normalement. La communication n'est jamais bonne, et ben, c'est des algorithmes très sophistiqués pour corriger ça.
Voilà, 10 ans de voyage, 6 milliards de kilomètres pour Rosetta et des calculs, des algorithmes en permanence au fond parvenir à faire arriver ce robot sur une comète de 4 kilomètres seulement.
Oui, quand on envoie l'ordre que le module se détache, c'est un ordre complètement informatique qui va être réalisé par des appareils qui sont mixtes informatique, mécanique, physique, etc.
Voilà, donc on doit aussi notre part d'émerveillement à l'informatique quand même.
Ah, tout à fait, oui. Parmi d'autres choses, hein, bien sûr.
Gérard Berry, on peut être médaille d'or du CNRS, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies, mais également régent de déformatique au Collège de pataphysique. Pour en parler ensemble, un petit extrait des Shadok et un hommage à votre discipline.
L'ordinateur Shadok, dans son principe, reposait sur deux bases logiques. La première lui servait à se reposer, la deuxième était hypothétique et lui servait à faire des calculs. Ces calculs étaient effectués selon la méthode dite du calcul des probabilités. Quand on lui demandait une addition, 2 plus 2 par exemple, il répondait « 2 plus 2, c'est probable que ça fasse quelque chose. Il y a une chance sur 2 que ça fasse 33 » et une chance sur 2 que ça fasse n'importe quoi d'autre, de 0 à l'infini y compris. On appelait ça le principe d'incertitude, parce qu'il y avait une chose dont on était sûr, c'est que c'était faux. Ou alors, si c'était juste, c'était vraiment par hasard, ou qu'il y avait une erreur quelque part.
Voilà, les Shadok, l'informatique, c'est une de vos madeleines, ça, Gérard Berry.
Oui, oui. Par exemple, pourquoi les Shadok avaient-ils inventé l'ordinateur ? Eh bien, ils étaient tombés sur la fameuse phrase « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». Et ils s'étaient mis à lire, comme ils n'avaient pas de mémoire, ils s'étaient mis à lire le plus grand nombre de livres possibles pour les oublier très très vite, pour augmenter leur culture. Donc plus ils lisaient, plus ils étaient cultivés. Et le professeur Shadoko a inventé l'ordinateur qui serait capable d'oublier encore plus vite qu'eux.
Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans la pataphysique ? Et petit rappel peut-être pour les plus jeunes de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette honorable institution.
Alors la pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires. Et cette institution a été créée dans les années 50 à la suite du roman d'Alfred Jarry, Docteur Faustrol, et qui a été créée par Boris Vian. Il y avait des tas de gens merveilleux. Bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler. Mais la pataphysique essaye de regarder le monde de façon complètement différente. Et moi, je m'intéresse à ça parce que ça ouvre des fenêtres tout à fait différentes sur une autre forme de connaissance. Et surtout, ça nous permet de sortir sans arrêt des certitudes.
Ce qui est important pour un scientifique. Hein.
Ah ben, c'est fondamental. Sortir, par exemple, la pataphysique, moi je joue beaucoup avec les paradoxes, je suis logicien aussi, et en logique c'est l'étude des paradoxes qui a toujours fait progresser la logique. Et les Shadok sont très très forts en paradoxes, et en pataphysique, bien sûr, on joue beaucoup avec ça. Jouer avec le langage, et la pataphysique parle beaucoup du langage, l'Oulipo, Pérec,
bien
tout
sûr,
ça, Queneau, et jouer avec le langage, c'est travailler sur la partie la plus profonde de notre savoir.
Gérard Berry, les auditeurs sont au rendez-vous avec les questions et les messages, franceinter.fr, les réseaux également pour les messages courts avec le mot-clé l'attaque. Philippe nous dit ceci, on a justement des chercheurs très brillants en informatique en France, mais pourquoi dans notre pays est-ce que nous n'avons pas des super entreprises à l'instar de Google ou d'Amazon ?
Alors, c'est une histoire un peu compliquée, mais disons que ça a commencé il y a très longtemps, c'est-à-dire que la France a été à peu près le seul pays développé de l'époque à ne pas construire un ordinateur tout de suite. Les ordinateurs sont arrivés après. Comme je l'ai dit, on s'est beaucoup occupé d'énergie et de matière. Donc, c'était vraiment les deux grands sujets. Donc, on a fait l'énergie nucléaire, Airbus. Et l'informatique, ça a toujours été considéré comme un esclave de tout ça.
Donc, on paye encore ce retard. On paye encore ce retard aujourd'hui.
On paye encore ce retard. C'est un retard mental. Ce n'est pas un retard technique. Alors, on ne le paye pas dans tous les secteurs. Par exemple, moi, j'avais avec d'autres, on a cofondé une entreprise qui est maintenant très leader dans les domaines d'informatique embarquée, etc. mais ce sont quand même des petites entreprises. Mais Amazon, ce n'est pas vraiment une entreprise d'informatique. C'est une entreprise qui est fondée sur l'informatique. Mais ce qu'elle vend, ce n'est pas de l'informatique. Mais Google est une entreprise informatique claire. Tout à fait. Alors pourquoi on n'en a pas ? Ben, je pense que ce n'était pas dans le style. Nous, on a fait des choses matière-énergie. Et pendant très longtemps, j'entendais, j'ai déjà dit ici, l'informatique, c'est une mode, ça va passer. Bon, c'est un peu raté. Ça ne va pas passer, c'est en train de devenir une des très grandes industries du monde. Une des raisons, c'est qu'on fabrique le monde, on ne l'étudie pas. C'est-à-dire que la biologie ou la physique, ça étudie le monde existant, ce qui est très compliqué. Nous, on n'a pas besoin de monde existant, on sait fabriquer des ordinateurs. Ça, c'est de la physique aussi, bien sûr, difficile. Mm-hmm. Avec ça, on fabrique un jeu de construction. Donc nous, on a un jeu de construction. Mais nos notions s'appliquent aussi maintenant en biologie, en neurosciences, etc.
Ouais, y a beaucoup, effectivement, de matières hein, qui se servent aujourd'hui de disciplines de l'informatique très directement.
Hein. Ou de la pensée, c'est-à-dire la biologie, par exemple, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule ? C'est de la matière, mais c'est aussi beaucoup de l'information. Oui. L'épigénétique, typiquement, c'est des modifications petites de la matière qui changent complètement l'information.
Larry demande, est-ce qu'il existe des lois de l'informatique comparables aux lois de la robotique ?
Non, moi je ne suis pas fasciné par les lois de la robotique, les lois de Asimov, etc. Ouais. Ça ne fait pas partie de la science informatique, ça fait partie du discours sur une certaine vision de la robotique qui est ancienne. Donc je pense que la robotique moderne ne ressemble pas assez. Non, on n'a pas ce problème.
Il n'y a pas de loi édictée pour l'informatique ?
Non, il y aura des lois dans le droit à propos de la vie privée, etc. Ouais. Ce n'est pas la même chose que les lois de comportement des robots. Alors ça peut arriver. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, je pense qu'on est loin de la chose, mais il se passe des choses très intéressantes en apprentissage. Mais il ne faut pas se tromper, on parle beaucoup de big data, c'est bien, c'est formidable d'avoir beaucoup de données, mais on peut extraire aussi facilement des choses totalement fausses que des choses totalement vraies de beaucoup de données. Mm-hmm. Et je suis prêt à parier qu'il y a beaucoup de gens qui vont confondre leurs envies et les réalités, c'est-à-dire qu'ils vont faire dire à des données des choses qui ne sont pas dedans, ou des choses qui ne sont pas regardées avec le bon angle, et on va pouvoir faire des choses très intéressantes et aussi beaucoup de bêtises. L'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. On sait apprendre des choses avec les ordinateurs. On ne sait pas traduire une langue parce qu'une langue, c'est très compliqué. Il ne faut pas exagérer les choses, jamais.
Allez, Gérard Berry, on se retrouve dans un instant. On va parler langage informatique, bug informatique et objets connectés. Les messages pour vous arrivent sur le site de France Inter.
You keep shouting, we got a word.
Lucius avec Tom Pest à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Notre invité Gérard Berry, médaille d'or du CNRS. Médaille que vous allez recevoir en décembre, hein, Gérard Berry.
Le 17 décembre.
C'est ça.
Oui.
Vous allez préparer un discours à cette occasion.
C'est en cours de discussion.
C'est vrai ?
Oui.
Bon, c'est presque comme l'arrivée, le cours magistral pour le Collège de France, hein, la leçon inaugurale.
Non, je pense qu'il n'y a pas que la médaille d'or, il y a d'autres médailles au CNRS. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais.
Je ne sais pas, on va voir.
Bon, donc
c'est pas encore décidé.
En cours de négociation. Les cours au Collège de France, ça va redémarrer à la rentrée pour le grand public, parce que c'est lui aussi qui s'intéresse à informatique, et c'est l'occasion d'aller le rencontrer le 30 janvier. Et en plus, vous allez en province. Il y a le Gérard Berry Tour.
En région, on dit maintenant. Je vais à Lyon, à l'École normale supérieure de Lyon, pour un cours qui s'appellera « La révolution informatique dans les sciences ».
Ouais. Et ensuite, donc, vous irez au Collège de France, donc à Paris, entre le mois de mars et avril. Toutes les infos sont sur le site du Collège de France, évidemment. Jeff nous demande pourquoi est-ce qu'il existe autant de langages de programmation, Gérard Berry. Éclairez-nous déjà là-dessus.
Oui, la programmation, c'est un sujet très compliqué à cause de la bêtise de cet ordinateur. Donc, les gens ont cherché à faire des langages très tôt. Les premiers langages, en fait, et les fondements des langages actuels, c'est 1936, c'est Church, ça s'appelle le
langage
de calcul. Oui, mais il n'y avait pas d'ordinateur. Donc les premiers langages étaient des langages très simples, ça s'appelle COBOL, FORTRAN, etc. Et puis après, les gens ont essayé de les améliorer, et chacun a fait sa variante. Alors il y a beaucoup de langages pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs dans le langage, et que les auteurs dans le langage sont fiers de leur bébé.
Donc ils créent leur langue.
Ils créent leur langage, ou des fois des micro-variantes, hein, des Lisp, il en existait plusieurs centaines, par exemple. Chacun fait sa variante. Et à l'époque, on ne se souciait pas de porter des programmes d'un ordinateur à un autre. Donc ça, c'est la raison 1. Pourquoi y a-t-il autant de langages sur la Terre ? C'est parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de communautés humaines. Hein. C'est la même chose. La deuxième raison, c'est qu'il y a aussi des langages qui font des choses différentes. Il y a des langages qui font presque tout pareil. Par exemple, pour ceux qui connaissent C, Pascal, c'est pas très différent. Mm-hmm. Mais par exemple, l'Astérel, c'est un langage tout à fait différent. Ça ressemble absolument pas. C'est un langage qui va parler essentiellement du temps et des événements, qui est la chose dont ne parlent pas du tout les autres langages. Et il n'y a pas que celui-là. Par exemple, en France, il y a eu Lustre qui a été fait à Verimag, à Grenoble, qui est utilisé sur les Airbus. Déjà, les 380, c'est fait avec ça. Les nouveaux appareils sont faits avec une fusion de ces deux langages, SRL et Lustre. Mais ces langages-là parlent du temps. Donc, ils sont différents. Il y a aussi des langages qui parlent de déduction logique. Par exemple, Prolog, qui a été aussi inventé en France par Alain Kolmeurauer dans les années 70. Il y a aussi différents styles de programmation. Le style fonctionnel, CAMEL, pour ceux, il y en a qui l'apprennent à l'école en classe préparatoire, par exemple, qui est encore un langage français. Et puis, il y a des langages qui parlent des systèmes distribués ou du web. Par exemple, JavaScript, ça parle du web. Et donc, ces langages sont arrivés parce que des besoins nouveaux sont arrivés, des idées nouvelles sont arrivées. Mmh. Puis, il y a beaucoup d'égos qui ont fabriqué leur petit langage aussi.
Bon, donc, ça veut dire qu'il y a des langages qui ne servent pas à grand-chose et d'autres qui sont parfaitement adaptés à de nouvelles fonctions, à de nouveaux besoins.
Voilà, il y a eu beaucoup de créations. Pourquoi y a-t-il beaucoup de morceaux de musique, hein ? Mmh. Il y a eu beaucoup de créations et maintenant ça se calme parce que c'est devenu très difficile de faire un langage parce qu'il faut qu'il soit disponible sur tous les ordinateurs de la Terre, qu'il soit extrêmement fiable, etc. Donc ça se calme, il y en a moins en ce moment qui se créent.
Alors Gérard Berry, votre bébé justement, c'est le langage STRL, vous venez de le citer. C'est un langage de programmation adapté à l'informatique embarquée. Je ne raconte pas de bêtises en disant ça.
Oui, c'est ça.
Alors ça veut dire quoi exactement ?
Eh bien, ça veut dire justement qu'il parle du temps et des événements. C'est-à-dire qu'il a été conçu dans les débuts des années 80. On avait fait une petite course de voiture. C'était un langage créé dans un labo pluridisciplinaire très important, avec des automaticiens, des gens de la théorie du contrôle. Et ils avaient conçu une petite voiture qui fonçait sur une piste et tout. Et on se demandait comment la programmer. Et donc, on a eu des idées tout à fait différentes du reste des langages. Et ensuite, le langage est né très très vite. Et on a mis très très longtemps à comprendre vraiment ce qu'on avait inventé. C'est-à-dire à faire les mathématiques de ça, parce que moi j'aime pas qu'un langage, c'est pas juste un truc qu'on décrit sur un bout de papier. La définition du langage, elle est complètement mathématique. Les algorithmes qu'ils traduisent en langage de la machine ou en circuit directement sont complètement mathématiques. Et c'est des choses qui sont très bien comprises, mais qui sont dures. On a mis longtemps à faire tout ça avec pas mal de gens dans le monde.
Oui, dur parce qu'il faut traquer toutes les failles justement et toutes les erreurs
possibles.
Oui,
c'est ça. C'est-à-dire que si on veut un truc qui marche à peu près, la vie est simple.
Oui.
Mais nous, on pilote des avions. Je pose souvent la question...
Mais au sens propre, hein ?
Oui, oui.
Au sens propre du terme.
Tout à fait, oui. Ouais. C'est-à-dire que le pilote d'un avion a un contact avec un joystick de jeu vidéo et c'est l'ordinateur qui pilote l'avion, il faut être clair.
Ouais.
Et là, on est sérieux. Donc, quand je pose à mes collègues, est-ce que si vous programmez un avion, est-ce que vous montez dedans ? En général, ils esquivent un peu la réponse. Nous, on est obligé de faire ça. Hein.
Ouais.
Donc, il n'y a pas que les langages, il y a aussi tout un outillage. et par exemple de preuves mathématiques que certaines choses sont du programme qu'on regarde, essayer de prouver automatiquement des propriétés fondamentales.
Ouais. Donc exemple, Gérard Berry, pour bien comprendre ce langage STL dans un avion justement, le principe c'est quoi? C'est que l'avion soit en contact permanent avec son environnement, puisse réagir avec lui en fonction des problèmes.
L'avion a tout un tas de capteurs, il va prendre de l'information sur les pressions autour des ailes, sur la direction, sur la vitesse, etc. Et donc il est en interaction permanente avec son environnement. Mmh. C'est-à-dire il va prendre des informations de ses capteurs ou bien du pilote, et puis il va réagir par des gouvernes, mais il y a aussi le contrôle des réacteurs, le freinage, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les systèmes réactifs, ils réagissent sans arrêt à leur environnement. Et nous, ce qu'on a inventé, c'est un principe qui s'appelle le principe synchrone, qui consiste à dire qu'on va faire comme si la réaction, le réflexe était infiniment rapide.
Donc en temps réel, quoi. Il faut que ça réagisse en temps réel.
Pour simplifier ça, on a dit en temps zéro.
Oui, carrément.
Alors on nous a regardé un peu pour des fous, mais on a démontré qu'on avait raison. C'est-à-dire que cette hypothèse permet de séparer le temps propre de l'ordinateur du temps du processus qu'on est en train de contrôler. Et ça permet de faire des mathématiques bien plus simples et à la fin d'être encore plus efficace que les gens qui ne prennent pas ça.
Alors, exemple toujours concret dans votre avion, comment ça peut s'illustrer?
Eh bien, par exemple, un avion va faire, alors c'est assez simple, un avion c'est un système relativement simple, on peut parler de musique après, c'est plus compliqué.
Ouais.
Un avion, un Airbus par exemple, tous les centièmes de seconde, il va rassembler toutes ses mesures, il va calculer ce qu'il faut faire et il va le faire. Et donc, il y a une boucle qui se fait tous les centièmes de seconde, je lis mes entrées, je calcule quoi faire et je fabrique les sorties pour les commandes. Et le principe synchrone, c'est d'éviter toute interférence entre ces trois phases. Les méthodes classiques d'informatique font que ces trois phases interfèrent sans arrêt et qu'on n'arrive absolument pas à contrôler ce qui se passe. Notre principe permettait d'être très précis, très rigoureux sur ce qui se passe et de contrôler exactement la validité de ça.
Donc quand on monte à bord d'un avion, on doit avoir une pensée pour vous et pour votre langage STL, c'est ça?
Alors pas tous les avions, les Boeing ne sont pas faits avec ça encore.
Donc Airbus.
Airbus, mais aussi maintenant, il y a beaucoup de clients, mais pas que les avions, aussi les
trains. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'applications dans l'industrie avec ce langage.
Il y a beaucoup d'applications dans l'industrie, là où les bugs sont très importants et où les gens n'ont pas envie d'en avoir. Ce n'est pas les applications de téléphone, l'industrie.
Oui, clairement. Il y a des enjeux très forts, évidemment.
C'est des enjeux très forts.
Et de sécurité en particulier.
De sécurité.
Parce que c'est là pour répondre aussi à toutes les failles dans lesquelles pourraient s'engouffrer. Alors, non seulement des pirates, mais aussi des événements inattendus.
Ce n'est pas toutes les failles. On ne peut pas répondre à toutes les failles. Ça, ce n'est pas possible. Quand un avion atterrit, qu'il y a un tremblement de terre qui casse la piste, ça peut arriver. On ne peut pas répondre à ça. Mais au moins les failles informatiques dont on sait qu'elles sont redoutablement faciles à faire, on les évite.
Françoise nous dit ceci, ma fille fait des études d'informatique, deux filles dans la classe, mais est-il vrai que les filles sont en fait très recherchées dans les entreprises d'informatique?
Tout à fait, il y a un véritable désastre avec ça. J'ai même entendu une jeune fille de 17 ans, 18 ans, il y a cette année, me dire qu'à l'école, on lui avait déconseillé de faire de l'informatique parce que ce n'était pas un métier pour femmes. C'est un véritable scandale.
Oui, c'est totalement
le nombre
stupide,
de filles en informatique est très faible, beaucoup trop faible. Et il n'y a aucune différence intellectuelle, il n'y a aucune différence de capacité.
Oui. Et il y a du boulot en plus.
Évidemment, il y a du boulot.
Parce que là aussi, on a du mal à trouver des gens.
On a du mal à trouver des gens de partout, des femmes en particulier. Et il y a du boulot pour très, très, très longtemps dans énormément de secteurs. C'est-à-dire, l'informatique, c'est pas que les sociétés d'informatique. C'est Renault, c'est Arianespace, c'est tous les métiers.
Ouais. Et vous-même, vous avez du mal, je crois, à trouver des thésards, Gérard Berry,
par exemple, on cherche un thésard pour notre outil d'orchestration du web et des objets connectés. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver. C'est quand même extraordinaire.
Ben, l'appel est lancé.
L'appel est lancé.
Peut-être que vous allez le trouver après votre passage dans la tête au carré. Ce message de Clem, le non-intérêt pour les langages ne vient-il pas du verrouillage, dit-il, des logiciels privés en opposition avec les licences libres?
Le nom STL vient du massif montagneux qui est à côté de Cannes, qui s'appelle l'STL, qui est très beau. Puis STL, il y a un peu temps réel dedans qui est caché.
Mmh.
Et puis, c'est très important de donner un nom à quelque chose. Et STL, c'est un nom qui se prononce très bien en anglais. Et il y a même un très joli bouquin en coréen sur STL. Il s'appelle STL, tout le reste est écrit en coréen. Et ça se prononce même pas trop mal en coréen.
Bon, et en quoi ça répond à la question de Clem, alors Gérard Berry, sur le verrouillage des logiciels privés
STRL
en opposition avec les licences libres?
STRL a été développé comme un logiciel qui était destiné à être industriel dès que j'étais dans, dans l'université, mais qui a été distribué gratuitement à tous les chercheurs, même quand j'étais dans l'industrie. Donc les licences des outils qu'utilisent Dassault, Airbus et les autres étaient tout à fait, étaient et sont toujours pour les universités gratuites. C'est un peu compliqué cette histoire de code. Là, on est dans des logiciels professionnels. Moi, je payais les gens de mon laboratoire, avec l'argent que je des contrats, donc ouais. En particulier là-dessus. Donc, ça posait des problèmes. On avait des accords avec Intel et des choses comme ça. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est pas facile à discuter, ça.
Gérard Barry, la question des bugs, justement, cette question absolument essentielle d'un point de vue de la sécurité. D'abord, hein, tout simplement, est-ce qu'on peut lutter facilement contre un bug ou pas ?
On ne peut pas lutter facilement contre un bug, mais il y a deux moyens d'agir. Il y a d'abord des moyens garantis pour faire des bugs qui sont employés. Par exemple, il y a en ce moment un très gros problème chez un grand constructeur automobile japonais où l'expertise a dit que les moyens pour faire des bugs avaient été employés en grand. Donc il y a des moyens pour rater l'informatique qui sont connus, qui sont à l'œuvre dans pas mal de programmes. Je ne citerai pas, mais il y en a en France en ce moment qui sont en pleine divergence, dont on parle. Et il y a aussi des moyens de faire beaucoup mieux. Et là, je vais enseigner dans les prochaines années ce qu'on appelle prouver les programmes, c'est-à-dire au lieu de tester les programmes, de les prouver mathématiquement. Alors, on ne peut pas faire ça pour tout, mais il faut comprendre que quand on fait des tests sur un programme, on ne teste que ce qu'on a testé. Ça ne dit rien sur ce qu'on n'a pas testé. Ce qu'on essaye de faire dans la preuve, c'est de tester même les cas qu'on n'a pas testés. Mmh. Je prends un exemple. Je veux montrer qu'un ascenseur ne voyage pas la porte ouverte. Je peux faire 10 000 essais. La seule chose que je saurais, c'est que dans les 10 000 essais, ça s'est bien passé. Ça ne me dit rien sur les 10 000 suivants. En STRL, on faisait ça très, très de façon routinière. On fait retour chariot, on dit l'ascenseur ne voyage pas la porte ouverte, retour chariot, c'est vrai. Ou alors retour chariot, c'est faux, voilà comment faire pour faire la porte ouverte. Donc là, c'est une garantie à 100%. Alors, à cause du logiciel, il peut voyager la porte ouverte à cause de la physique, ça c'est autre chose. À cause du logiciel. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à savoir faire, qui ont fait des progrès considérables, dans lesquels la France est très très forte, et qui s'appliquent même maintenant aux mathématiques.
Ouais, mais le bug, il est lié à l'erreur humaine avant tout.
Le bug est une erreur toujours humaine. Le bug est toujours une erreur d'écriture des programmes. La machine n'est pas concernée, la machine fait ce que fait. Le bug est une bêtise qu'on lui a dit de faire. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas la même chose qu'une panne. On m'a demandé une fois sur les systèmes nucléaires, quelle est la probabilité de bug dans un programme. Je lui ai dit, ça n'a pas de sens. Il y en a ou il n'y en a pas. Ça n'a pas de probabilité. La probabilité que le bug fasse faire une catastrophe, ça existe. Mais le bug, c'est une erreur humaine.
Gérard Berry, Jacques vous demande ceci. Les puces RFID font-elles partie du champ de compétences de
oui,
votre
tout à fait,
domaine.
Parce que, quand on parle d'objets connectés, c'est tous les objets. C'est-à-dire la puce RFID permet de connecter n'importe quel objet. Donc si j'avais une puce RFID sur mes lunettes, quand je les perds, j'aurais plus de chances de les retrouver, par exemple. Alors, elles font partie du champ de l'informatique parce qu'il faut les gérer, parce qu'il faut construire tous les capteurs, tous les systèmes d'information qui permettent de savoir quoi faire avec. Et elles font aussi partie du champ de l'informatique au sens du droit de l'informatique, de l'éthique de l'informatique. Faut-il vraiment être pisté toute la journée ? Faut-il vraiment que n'importe qui puisse savoir qui est, où est quelqu'un d'autre ? C'est des questions pas claires.
Il y a des vraies questions éthiques autour des objets justement connectés, dans le domaine de la santé en particulier. Ça pose de vrais problèmes déjà.
Ça pose de vrais problèmes, mais par exemple dans la santé, la sécurité et la sûreté, je ne sais pas à l'heure actuelle comment elles sont vérifiées, mais je ne suis pas sûr que ce soit la même qualité que les avions. Je sais par exemple qu'une université américaine a montré qu'on pouvait prendre le contrôle sur beaucoup de pacemakers avec une télécommande assez banale.
Mais ça, c'est effrayant.
C'est effrayant, mais heureusement que c'est une université qui l'a trouvé.
Ce n'est pas effrayant.
C'est la vie. Mais simplement, il faut arrêter de penser qu'il suffit de faire de l'informatique pour qu'elle marche. Et c'est pour ça qu'il faut enseigner. Si on n'enseigne pas ces choses-là, quand les gens en feront en n'ayant rien appris, ça ne marchera jamais.
Ouais. Et donc, comment on peut se prémunir de ce type de problème, par exemple, là aussi ?
Il faut former les dirigeants. Ça, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Ouais. Vu qu'il n'y a pas d'enseignement, les gens n'ont jamais été formés. Donc, ils n'ont pas la forme de pensée, ne comprennent pas fondamentalement le sujet. Il faut former les dirigeants, il faut former les jeunes. Il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Et ce n'est pas des incantations qui aideront à comprendre. Ce n'est pas d'apprendre à se servir d'une tablette qui aidera à comprendre ça. Apprendre à se servir d'une tablette, ça apprend à se servir d'une tablette. Mmh. C'est tout. Et en plus, une tablette, c'est un objet consommateur. On ne peut pas fabriquer quoi que ce soit avec une tablette. Il faut apprendre à comprendre comment on fabrique.
Gérard Berry, donc médaille d'or du CNRS. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans La Tête au Carré. Sophie Bécherel fait son entrée dans ce studio. Donc j'imagine qu'il y a des nouvelles. Vous pouvez prendre le micro, Sophie, de Philae. Qu'est-ce qui se passe ?
Juste pour vous dire qu'à Darmstadt, à l'instant, Jean-Pierre Bibring, qui est le responsable scientifique de la caméra Shiva, a montré les 6-7 premières images prises par cette caméra, où on voit effectivement que Philae est quasiment à la verticale d'une paroi de la falaise. Mm-hmm. C'est extrêmement noir. Autant dire qu'il est vraiment dans une ombre quasi totale. Un jour, une heure et demie de lumière seulement, au lieu des 6 à 7 escomptés. Donc c'est ce que je vous disais, la batterie sera plus difficilement rechargeable hein, grâce aux panneaux solaires. Mais voilà, sinon ils sont toujours tous aussi enthousiastes.
Bon. Donc on a des photos, on peut les voir ou
voilà.
pas ?
C'est donc pour ça que je venais vous voir.
Merci
vous
beaucoup.
Pouvez d'ici, je pense, quelques minutes, les obtenir sur le site de l'Agence spatiale européenne, ESA.int.
Bon, et on va essayer de les mettre sur franceinter.fr. Ce sera encore plus rapide pour les observer d'ici quelques secondes. On va s'en occuper. Merci beaucoup Sophie. Merci Gérard Berry. Encore bravo pour cette médaille d'or. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis vos cours donc, qui redémarrent à partir du mois de janvier. Merci beaucoup à vous. Magic Woman avec la guitare de Santana sur France Inter. C'est l'heure du quiz de la tête au carré. Bonjour Florence Porcel.
Bonjour Mathieu.
Nous avons bien sûr deux nouveaux candidats pour jouer avec nous dans un instant. Vous nous les présentez ?
Mais oui, bonjour Mireille, bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Mireille, vous nous appelez d'Antibes dans les Alpes-Maritimes.
Oui.
Vous êtes couturière, on a joué avec une couturière d'ailleurs,
la semaine dernière,
qui travaillait à domicile, est-ce que c'est votre cas ou pas ?
Non, d'ailleurs oui, j'ai entendu et c'est pourquoi je me suis dit tiens, je vais tenter ma chance. Non, moi j'ai un atelier de couture et création au centre d'Antibes.
Très bien, donc des clients peuvent arriver à tout moment si je comprends bien.
Absolument.
Allez, il nous faut quelques minutes, on va tenter notre chance ensemble. Face à vous se trouve Geoffrey, qui est à Nancy, c'est bien ça Geoffrey hein ?
Oui, bonjour Mireille, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Et je vois Geoffrey que vous êtes demandeur d'emploi.
Oui, tout à fait.
Dans quel domaine vous recherchez du travail ?
En microbiologie, en agronomie, plutôt dans la recherche publique, dans les labos.
Ah, mais vous avez un centre d'agronomie à Nancy d'ailleurs, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait, oui.
Hein, y a l'INRA qui se trouve pas très loin de chez vous, j'imagine.
Oui, on a un centre INRA, oui.
Bon, je vous souhaite bonne chance en tout cas dans votre recherche.
Merci bien.
Cette semaine, Florence, on joue avec les éditions Le Robert.
Oui, nous offrirons au gagnant ou à la gagnante le coffret du Robert illustré en édition limitée. Bonne chance à tous les deux.
Allez, on va commencer avec la question d'actualité, Mireille et Geoffrey. Question d'actualité qui nous a fait part il y a quelques jours du problème de producteurs ardéchois face à une redoutable guêpe chinoise qui détruit jusqu'à 80% de leur récolte. Ils ont lancé, ces producteurs ardéchois, une collecte publique pour lutter justement contre ce fléau et sauver leur production. Mais que produisent-ils exactement ? C'est la question que je vous pose. 30 secondes. pour nous
des
répondre.
Châtaignes.
Des châtaignes, c'est la bonne réponse. Bravo Geoffrey, effectivement. Vous avez vu ça dans l'actualité récemment, j'imagine ?
Non, déduction Ardèche, châtaignes.
Bravo. Là-bas, oui. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas exactement, Florence ?
L'Ardèche est effectivement connue pour ses châtaignes, hein, mais elles sont ravagées par le Cynips, une petite guêpe chinoise qui a fait son apparition en France en 2010. La solution est d'introduire une autre espèce de guêpe chinoise, le Torimus, qui se nourrit des larves du Cynips. Alors suite à l'appel aux dons le mois dernier, 17 000 euros ont déjà été récoltés, mais les chercheurs de l'INRA précisent qu'il faudra 10 ans pour que les deux populations s'équilibrent.
Voilà, donc c'est un agronome, futur agronome, qui a bien répondu à cette question, et ce qui vous vaut 10 points, Geoffrey. Allez, Mireille, tout est possible encore sur les questions de rapidité. On va vous poser 7 questions dans un instant. Vous avez 1 minute 30 pour y répondre. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir lancer le chrono.
C'est bon, c'est parti.
Allez, on y va. Première question. Quel nom de polygone donne-t-on au bâtiment qui accueille le ministère de la Défense américain ?
Le Pentagone.
Bonne réponse, Geoffrey. À quelle famille appartiennent les panthères, les guépards et les tigres ?
Les félins.
Bah oui, tout simplement. Petite avance de Geoffrey. Quel est le nom des concrétions calcaires qui se forment au plafond des grottes ?
Les stalactites.
Oui, Geoffrey. Mireille, il faut être rapide parce que vous avez les bonnes réponses, mais il est très très rapide, Geoffrey. De combien de lettres est composé l'assemblage des bases de l'ADN ?
4.
4 lettres. Bonne réponse, Geoffrey. Quel adjectif qualifie les particules qui sont les constituants fondamentaux de l'univers ? Et qui ont inspiré un célèbre écrivain français.
Allez, vous pouvez répéter, ouais.
Quel adjectif qualifie les particules qui sont les constituants fondamentaux de l'univers ? Particules ?
Élémentaires ?
Ah ben voilà, mon cher Watson. Bonne réponse de Geoffrey. Quel est le nom du pigment principal qui colore notre peau ?
La mélanine.
Petite avance de Mireille. Quel est le nom, ce sera la dernière question, de la cité antique située dans l'actuelle Jordanie qui a servi de décor dans le troisième Indiana Jones ?
Petra.
Bonne réponse, Geoffrey. Oh là là, sacré joueur, hein.
Oui, bravo.
Mais Mireille, vous avez été très bonne aussi. Simplement, Geoffrey a été plus rapide que vous sur beaucoup de questions.
Malheureusement.
Mais vous aviez quasiment tous les deux les réponses. Notre quiz était vraiment fait pour vous.
Mais oui,
voilà.
Fait sur mesure.
Allez, on va faire le calcul des points, du coup.
Et bah, du coup, ça nous fait 30 points pour Geoffrey pour cette manche et 5 pour Mireille.
Allez.
Là là.
Eh oui.
Très peu de chance.
Mireille, vous avez déjà fait, hélas, la déduction sur ce qui va se passer.
Ouais.
Mais on va jouer pour le plaisir. C'est le moment du mot mystère. On va commencer avec vous, Mireille.
D'accord.
Allez, vous avez 45 secondes. C'est parti.
On va faire partie de cette catégorie et que je vais pouvoir me oublier mon... Comment dire ? Enfin, bon, bref. Donc,
allez,
c'est
définissez.
Un animal à mammifère herbivore ayant un estomac très spécifique car il comporte 3 à 4 poches. L'animal en question donc arrache l'herbe, la mâche. Oui, ça peut être une vache, mais on cherche un déterminant. Donc la vache fait partie de cette catégorie d'animaux.
Ah, les bovins.
Non, pensez à l'estomac. Pensez à l'estomac.
Il mâche l'herbe, puis voilà. Avale l'herbe.
Ah, les ruminants.
Bravo.
Ah là là. Mireille, vous avez été très clair dans la définition.
Absolument. Et Mireille voulait nous dire qu'elle allait peut-être elle-même ruminer après
donc,
ce jeu.
sur ma défaite.
C'est ça.
Comme une vache, une chèvre, une girafe.
Non, enfin, soyez aimable, Florence, quand même, avec notre candidate.
Laura le choix.
Qui fait tout son possible.
J'ai tendu la perche, mais c'est pas grave.
C'est vrai. Allez, Geoffrey, c'est à vous. Vous allez essayer de faire découvrir le mot que vous avez sous les yeux à Mireille. 45 secondes, le chrono est lancé.
D'accord. Alors, le mot mystère est aussi un animal. C'est un petit insecte qui est parasite des humains, mais surtout des chiens et des chats. Un petit insecte.
Non.
Qui, ça saute, ça gratte.
Puce. Eh oui, la puce. Bien sûr. Mon chien en est plein en ce moment, j'arrive même pas à m'en débarrasser.
Oh mince,
je ne sais pas pourquoi,
chien.
Ça fait un mois et demi, si vous avez une recette, écrivez-moi, je vous en supplie. Voilà
l'huile
les puces.
Essentielle de lavande, peut-être.
L'huile essentielle de lavande, mais vous croyez qu'il va aimer l'odeur ?
Ah bah.
Le cou, au-dessus du cou, là où il ne peut pas l'atteindre par le léchage ni la...
Bon, et alors combien de gouttes est-ce que vous me conseillez, Mireille ?
2-3 gouttes sur la, directement sur la peau, 2-3 gouttes à peine.
Bon, à peine, parce que c'est fort les huiles essentielles.
Oui, voilà.
Bon, je vais faire l'essai, puis je vous donnerai des nouvelles.
Ça, il sentira bon, après, et puis c'est
voilà.
Pas le motif.
Ça sera très très agréable. Alors, ça nous fait quand même quelques points pour Mireille, du coup, cette histoire de puce.
Oui, ça fait 10 points pour Mireille, donc 15 points en tout pour Mireille, mais c'est quand même Geoffrey qui remporte ce jeu avec 50 points en tout. C'est la première fois qu'on a ce score.
Ah, c'est notre meilleur joueur de la saison.
Oui. Toutes
alors
nos félicitations.
Là, Un trophée pour vous. Donc, meilleur candidat du quiz de la Tête au Carré depuis sa création à la rentrée.
Voilà.
Geoffrey, félicitations. Et ça mérite vraiment de trouver un bon boulot de scientifique bientôt,
et
ça, quand même.
Je vais essayer. Mais je m'entraîne tous les jours en écoutant le quiz de la Tête au Carré.
Bah, écoutez, merci beaucoup. On va vous envoyer ce livre des éditions Le Robert, Florence.
Mais oui, le dictionnaire bimédia Le Robert, la version papier et sa version en ligne, avec notamment 100 vidéos exclusives sur l'histoire, notamment.
Allez, Mireille, merci beaucoup d'avoir joué avec nous.
Je vous en prie, merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir.
Et puis à très bientôt, je l'espère. Retentez votre chance quand vous voulez. À bientôt à tous les deux. Au revoir.
Merci. Au revoir. Et encore félicitations à Geoffrey. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Allez, avant d'accueillir Fabrice Well dans un instant, un nouvel ouvrage depuis hier dans les kiosques de la collection du Monde, Grandes idées de la science, qui explore la vie des grands physiciens et mathématiciens. Cette semaine, c'est Laplace, c'est la mécanique céleste, scientifique, Laplace, philosophe majeur. Il a exaspéré également beaucoup de ses biographes, accusés d'opportunisme pour avoir servi successivement l'Ancien Régime, les divers gouvernements de la Révolution, du Consulat et de l'Empire, et in fine la Restauration. Il a gravi l'échelle sociale jusqu'à obtenir le titre de marquis. Il a contribué à maintenir de façon décisive les institutions scientifiques françaises, établi par la Convention, le Directoire et renforcé par l'Empire. Il a défendu jusqu'à la fin de sa vie le système métrique décimal. Ce conservateur dans l'âme, jusque dans son traité de mécanique céleste, a estimé avoir établi la stabilité dynamique du système solaire à partir de la loi d'attraction de Newton. Philosophe des Lumières, Laplace s'est distingué par ailleurs par son affirmation du déterminisme à partir duquel il a construit paradoxalement la théorie analytique des probabilités. C'est ce que vous allez découvrir en lisant Laplace et la mécanique céleste. Cet univers est réglé comme une horloge. Un ouvrage de la collection Grandes idées de la science proposé par Le Monde en partenariat avec la Tête au Carré et à retrouver depuis hier dans les kiosques, cher Fabrice Drouel. Je sais que vous adorez ce rendez-vous chaque semaine où nous parlons de nos partenaires. Allez, dans un instant, Affaires Sensibles, quel sera le programme?
Oui, écoutez, il me reste 5 secondes juste pour vous dire que c'est l'affaire Grégory et que notre invité sera tout simplement quelqu'un d'ici, Mathieu Aron, journaliste spécialiste police-justice.
Les penches sur Valogne dans quelques minutes après les infos. Vous écoutez France Inter, bonne journée à tous, il est 15h.